Bon, vous connaissez Michael Fortier, il a été ministre de Stephen Harper, il était alors sénateur conservateur. Son nom a même circulé pour succéder à Andrew Scheer depuis quelque temps, mais la semaine passée, dans la presse, Michael Fortier a expliqué deux choses. D'abord, pourquoi il n'allait pas être candidat à la succession de M. Scheer, et deuxièmement, il a expliqué sa vision de ce que devrait changer le Parti conservateur pour regagner le pouvoir. Et je cite sa lettre. C'était une lettre extrêmement, je dirais, lucide sur l'état des choses pour le mouvement conservateur au Canada, pour le Parti conservateur. Je le cite, « La prochaine course au leadership devrait être un choc des idées, mais aussi un choc des valeurs. » Michael Fortier est en studio. Bonsoir.
Bonsoir.
Michael Fortier.
Est-ce qu'on fait semblant qu'on se connaît pas?
Oui, faisons.
Okay. Peut-être que vous voulez faire semblant, vous ne connaissez pas, c'est correct, je vous
voulez-vous faire ça au-dessus, M. Fortier?
C'est comme tu veux.
Faisons ça au-dessus. Okay. Michael Fortier, tu as jonglé avec l'idée de te lancer à la succession de Andrew Scheer. Peut-être commencer en nous disant pourquoi la décision a été « non, je n'irai pas ».
La réponse courte à la question évidente, c'est que je ne pense pas que j'aurais gagné. Mm. Et il y a 20 ans, je l'aurais fait. D'ailleurs, il y a 20 ans, je l'ai fait. Quand Charest est venu ici, je m'étais présenté la course à la succession de Charest au Parti progressiste conservateur.
Avant la fusion avec...
Oui, ouais. Je revenais de Londres, j'avais le cafard. Pour moi, c'était comme un job d'été, c'était fantastique. Mm. Fait le tour du pays, personne ne me connaissait, c'était parfait. Mm. Tu peux dire n'importe quoi. Finalement, j'ai fini dernier où je devais finir, mais ça a été mon début dans le parti. C'est ce qui m'a vraiment donné des ailes. Mais tu sais, quand tu as 35 ans... Tu peux te permettre ça. Quand tu es dans la cinquantaine avancée, j'ai pas besoin de ça dans ma vie. J'aurais adoré me lancer dans la course avec de réelles chances de gagner.
Oui.
Avec un sentier illuminé vers le podium, non sans obstacle. Je demandais pas un couronnement, mais il fait pas mal noir dans la pièce où je suis allé.
Je comprends. Mais puis en fait, c'est une évaluation lucide de tes chances.
Oui.
Mais parlant de lucidité, le reste de la lettre, moi, là, j'ai été soufflé par le degré de lucidité qu'il y avait dans cette lettre-là pour quelqu'un qui a été dans le parti, pour quelqu'un qui a milité dans ce parti-là, pour quelqu'un qui a des affinités avec le Parti conservateur. Okay, oui. Je vais citer une partie de la lettre. Okay? Il faut débarrasser le parti de ses éléments radicaux et convaincre les Canadiens que nous sommes dignes de leur confiance. Pour l'instant, nous sommes plutôt dignes de leur méfiance.
Oui.
Qu'est-ce qui fait que le Parti conservateur est digne de méfiance présentement?
Il s'est passé deux choses. Le dernier règne de Harper, surtout la fin de ce dernier règne, gouvernement majoritaire, très peu de voix au Québec. Il y avait beaucoup de mes collègues modérés qui avaient quitté la politique. Donc, on était plus papier sablé que papier fin.
Okay? Mmh, mmh.
Puis les gens vont se rappeler, en 2015, M. Harper, quand M. Trudeau a battu M. Harper, vous rappelez que M. Trudeau n'est pas parti premier dans les sondages en 2015. M. Trudeau était loin derrière. M. Harper n'avait aucune raison de perdre ça, mais il l'a perdu parce que son marché cible s'était tellement rétréci, il s'était tellement chicané avec tellement de monde dans toutes sortes de dossiers que ça lui prenait 100% de réussite avec son marché cible, ce qui est impossible. Alors, il a perdu. M. Scheer a été élu, et quand M. Scheer a été élu, il n'y a pas eu assez de vérifications diligentes sur le bonhomme. C'était vraiment un gars sympathique. Moi, je l'avais croisé à Ottawa. Un garçon sans histoire. Et moi, je m'excuse, quand je rencontre quelqu'un, je ne dis pas « Hey boy, tu es en faveur de l'avortement? » C'est pas ma première question à quelqu'un. Right?
C'était connu, ça, qu'il était contre l'avortement.
Ah, écoute,
ben, en fait, pas.
Les gens changent d'idée. Hein?
Que personnellement, il était pour.
Les gens changent d'idée. Même M. Trudeau lui-même a déjà eu... des problèmes avec des questions d'ordre social, puis avouer qu'il a changé d'idée. Tu sais, les gens évoluent, oui. On a tous évolué. Mais là, on ne peut pas arriver en pleine campagne électorale et dire aux gens, mais moi, je suis pro-vie, et donc, mais je vous demande de ne pas en tenir compte. Ayez confiance en moi, parce que je ne mettrai jamais en œuvre mes croyances. Mais c'est une utopie. Et tu ne te présentes pas là, pour le président du club de dart de Thetford Mines. Tu veux être premier ministre du Canada. Alors, tes croyances, tes valeurs, elles sont pas mal importantes. Nous, ce qu'il faut qu'on fasse, il faut absolument qu'on choisisse une chef ou un chef qui va être clair sur ces sujets-là. Et non seulement ça, qui va dire, non seulement je suis pro-choix, non seulement je suis en faveur des minorités sexuelles, mais je ne tolérerai pas que des députés de mon parti remettre ces éléments en question. Et là-dessus, à l'heure actuelle dans le parti, je te dirais, Patrick, qu'il n'y a pas... C'est là où le bas va blesser, plus que sur la position même. Parce qu'il y a beaucoup de députés qui disent, un instant, là, moi, je suis élu par un paquet de monde, puis c'est pas juste dans l'Ouest, un paquet de monde, peu importe, prends le comté que tu veux. Et moi, si les gens qui m'élisent veulent que je dépose un amendement à un élément comme l'avortement ou les droits des minorités sexuelles, je devrais avoir le droit de le faire. Moi, je dis non, il faut passer à d'autres choses.
Il faut que ce soit une question réglée. Il faut que le prochain chef dise « je ne permettrai pas ». Parce que la position de M. Scheer était un peu là, wishy-washy, c'est-à-dire « moi, là, comme chef de parti, comme chef de gouvernement, je ne vais pas présenter de projet de loi ». Mais bon, je ne peux pas empêcher qu'un député se lèverait et proposerait un projet de loi sur l'avortement. Toi, ce que tu dis, c'est le prochain chef, il va mettre le couvercle là-dessus.
Il faut avoir fait de la politique, il faut avoir été dans un caucus, il faut avoir été dirigé par quelqu'un comme Harper, qui avait quand même une mainmise assez importante sur son caucus, pour comprendre que c'est pas même ça marche dans la vraie vie. Tu peux pas te lever un matin et déposer n'importe quel projet de loi. On est dans une équipe. C'est comme les Canadiens, là. Tu sais, un défenseur demain matin ne peut pas dire, « Sais-tu quoi, moi, je veux jouer à l'aile gauche. » Et non, Pete, tu joues défense droite, OK? Alors, c'est même si ça marche dans un parti politique, j'exagère pour faire un argument.
Oui, je comprends.
Donc, il faut absolument que le chef dise, écoutez, c'est là où on s'en va comme parti. Parce que, pour le Parti conservateur, il y a cet élément-là, puis il y a l'environnement. Je suis certain que tu vas vouloir y revenir sur l'environnement. Oui. Mais sur les questions d'ordre moral, c'est un obstacle énorme. Énorme pour nous.
Ça a plombé la campagne
de
Scheer.
Dans ma propre maison, gage, j'ai 6 enfants, là, j'en ai 3 qui votent. C'est une maudite bonne affaire que les 6 votaient pas. Il n'y avait pas les 6 votes, tu comprends? Je ne parle pas des jokes.
Attends, tes enfants, Michael Fortier, n'auraient pas voté pour le PC.
Mais c'est clair. Non, mais mes enfants adultes n'ont pas voté pour nous. Puis ils te le diraient s'ils étaient ici. Mes enfants adultes n'ont pas voté pour nous, pour des questions d'environnement et des questions pour les questions de l'avortement.
OK, parlons de l'environnement.
Ouais.
Comment tu qualifierais la position conservatrice de la dernière campagne sur l'environnement et l'industrie du pétrole canadien?
Ben, d'abord, je pense qu'il faut qu'on se dissocie de l'industrie tout en l'appuyant. Ce qui n'est pas facile, mais ce qui est faisable. À l'heure actuelle, on est tellement associé à eux qu'il y a comme une fusion entre l'industrie et le Parti conservateur. Et je pense que même ça nuit à l'industrie. Je pense qu'il y avait un représentant ici ce soir, il dirait, hey, Fortier, il a raison, nous autres, là, on peut-tu juste avoir nos problèmes, nos enjeux, puis est-ce qu'on peut en parler avec la population plutôt que de tout le temps donner l'impression que notre porte-parole, c'est le Parti conservateur. Alors, il faut se dissocier de l'industrie, pas pour lui nuire, mais pour avoir une distance avec l'industrie. Donc, l'industrie du pétrole, il y a encore plein de Canadiens. Moi, j'ai un véhicule électrique, là. Ce matin, je suis venu travailler, là. Je t'annonce quelque chose, là. Je suis assis au Ultraman, sur Côte-des-Neiges, il y a plein de chars qui t'inquiètent. OK? Bon. Alors, on utilise encore le pétrole.
C'est pas la semaine prochaine qu'il n'y aurait plus d'auto
non!
au gaz.
Avec 3 % du parc automobile, come on, tu sais, puis on utilise le pétrole dans d'autres produits. Alors, on devrait continuer à appuyer l'industrie du pétrole. Mais ce qu'on ne fait pas au Parti conservateur, c'est émettre des mesures coercitives pour combattre.
Comme la taxe carbone.
Comme la taxe carbone, oui.
OK. Je lisais ta lettre, Michael Fortier. Le prochain chef doit ne doit pas avoir aucune ambiguïté sur l'avortement. On doit, comme parti, avoir embrassé des politiques environnementales comme la taxe carbone. On doit avoir aucune hostilité, aucune réserve face aux minorités sexuelles. Je lisais ça, puis je me disais, c'est Justin Trudeau, ça?
Bien, sur ces sujets-là, oui. Ben oui.
Fait que ce serait quoi la différence entre un chef comme tu le décris et Justin Trudeau?
Mais non, mais toute la pan de l'économie, la gestion des affaires étrangères, la gestion du déficit, les affaires courantes. Écoute, la liste est longue. Moi, je ne veux pas importuner les gens qui sont au volant. Là. Moi, je suis un conservateur. Alors, je ne commencerai pas à lancer des billes au gouvernement, au pouvoir. C'est un gouvernement que je n'appuie pas. Mais en même temps, il faut que je reconnaisse que mon propre parti a des défis pour se faire réélire. Vous savez, tu sais, dans l'histoire du Canada, si tu regardes l'histoire des 40-50 dernières années, M. Trudeau et M. Mulroney, ou M. Clark et M. Trudeau, M. Harper et M. Ignatieff, M. Dion, ils n'étaient pas en désaccord avec tout, voyons donc. On a nos champs de spécificité. Nous, on croit à la responsabilité des individus. On croit à un État un peu moins gros.
T'sais, moins de déficit.
Ben, moins de déficit. T'sais, le problème de camping de 150 millions de dollars. Moi, je suis pas sûr. C'est pas sûr que c'est important. Là. Les gens vont peut-être être en désaccord. Mais il y a des sujets sur lesquels on s'entend. Mais voyons donc. Donc, sur ces sujets-là, comme par exemple, la Terre n'est pas plate. Tu comprends? Elle est pas plate, la Terre. Donc, es-tu en train de me dire, ou quelqu'un dirait, ben, oui, le député qui pense, ben, voyons donc, tu sais, à un moment donné, on les a traités de ces sujets-là. Moi, ce que j'ai réalisé en faisant le tour, j'ai parlé à tellement de monde, j'ai rencontré tellement de monde durant le dernier mois, ce que j'ai réalisé, c'est que, en ce qui me concerne, c'est parce que c'est de ça dont on parle, là, je dis pas que personne d'autre peut gagner avec mes idées. Mais moi, Michael Fortier, la façon dont moi je suis, la façon dont moi je m'exprime, il faut aussi dire que ça fait 10 ans que je ne suis plus vraiment impliqué. Moi, je suis venu travailler ici, j'ai fait ma vie à Montréal, je vote conservateur, je donne de l'argent au parti, mais tu sais, je ne vais pas au souper spaghetti partout au pays, me faire des amis. Mais j'ai réalisé que moi, j'allais avoir des défis avec mes vues, avec qui j'étais, comme, tu sais, comme personnalité, le fait que j'avais une trop grande distance avec le parti. Mais ça ne veut pas dire, et j'espère que ça ne veut pas dire, qu'il n'y aura pas plusieurs personnes qui vont partager mon avis, qui vont être dans la course.
OK. Il y a, je peux pas te poser la question, là. Il y a Jean Charest qui a fait savoir qu'il était intéressé à se lancer dans la course. On verra s'il le fera. Est-ce que Jean Charest, sachant l'ombre qui plane sur lui avec une enquête criminelle, et je rappelle que M. Charest n'a pas été arrêté, il n'a pas été accusé, l'enquête dure depuis des années, ça semble piétiner. Est-ce qu'avec cette ombre-là, il peut quand même se présenter?
Bien sûr, ça va être à lui de décider. Je ne sais pas de ce qui est ta question, mais lui, c'est sûr qu'il traîne ça avec lui. Est-ce qu'il peut se présenter? Le parti a établi des règles qui vont sembler l'obliger, lui et tous les autres, à déclarer formellement qu'il n'y a pas d'enquête qui les vise. Mais au-delà de ça, c'est à lui à prendre cette décision. Il est accusé de rien.
Qu'est-ce que tu lui conseillerais?
Bien, moi, je lui dirais à Jean Charest que moi, je viens de faire cette espèce de sondage Fortier. Tu sais, c'est pas léger, là, c'est Fortier. Et la côte est pas mal à pic. Mais pour un gars comme moi, pour un gars comme lui,
qui est une bête politique.
Pas juste ça, on pourra dire ce qu'on voudra de lui. Jean Charest a encore beaucoup d'admirateurs dans le reste du Canada. Les gens se rappellent 1995. Et même si son passage comme premier ministre du Québec n'a pas été parfait, quel premier ministre provincial, quel premier ministre à Ottawa peut dire avoir eu un passage parfait? Personne n'a eu la note parfaite. Lui, il y a des gens qui l'admirent, des gens qui savent qu'il croit au Canada. Donc, mais lui, il aura le même défi que moi j'avais. Il va falloir qu'il attire des nouveaux membres. Parce que le membership actuel lui est probablement, puis là, je peux pas donner de pourcentage, mais le membership actuel adhérerait pas à grande majorité à une candidature comme la sienne. Ça, je pense que je peux l'affirmer.
Si le Parti conservateur, Michael Fortier, s'en allait vers le Parti conservateur dont tu rêves, c'est-à-dire on arrête de niaiser sur la question des minorités sexuelles, sur l'avortement, sur l'environnement, combien de monde le Parti conservateur perdrait pour donner de l'argent, poser des pancartes, faire sortir le vote?
Bonne question. Moi, je pense que c'est pour ça qu'on va faire cette course, puis c'est pour ça qu'il faut se poser la question. Moi, je pense qu'on va en perdre bien moins qu'on pense. Et donc, quand on a fusionné les partis en 2003, moi, j'étais là, on l'a fait parce que de part et d'autre, l'Alliance canadienne, le Parti progressiste conservateur, on savait qu'on ne prendrait jamais le pouvoir. Donc, on a accepté de part et d'autre
de faire la paix des braves,
même si on saillissait, écoute, à vie plus 100 ans, right? Harper a fait une bonne job comme chef d'entreprise. Moi, je travaille des chefs d'entreprise qui fusionnent des entreprises. Puis lui, honnêtement, là, top of the line, il était excellent. Lui, il n'est plus là, OK? Puis la fin de son mandat, comme je te disais tantôt, c'était un peu papier sablé. Mais lui, sur les questions sociales, il est vraiment... Ça n'a jamais été un écueil pour lui. Alors, moi, je ne pense pas qu'on va perdre tant de monde que ça. Puis je vais te dire pourquoi aussi. Parce que moi, je pense qu'une candidature, que ce soit celle de M. Charest, celle de M. McKay ou d'autres, quand on va commencer à sonder les Canadiens en leur disant, si, mettons, toi, tu te présentais, Patrick Lagacé is gonna run, il va se présenter, voterez-vous pour Patrick Lagacé ou pour Justin Trudeau? Quand les gens vont voir qu'une candidature plus modérée battrait Justin, moi, je pense qu'à ce moment, on va réussir à convaincre beaucoup de radicaux de se ranger.
Michael Fortier, je te garde pour la pause. Je vais juste te poser une question au retour avant la chronique de Catherine Beauchamp. On est avec Michael Fortier pour encore une question. C'est pas 18h18. 18h21, de retour en studio avec Michael Fortier, conservateur de longue date. On a parlé politique avant la pause. Michael, là, après la pause, basketball. OK. Tu as eu une patte dans le maintien de la F1 à Montréal. Tu es personnellement allé négocier avec Bernie Ecclestone. Et là, on a vu apparaître ton nom pour la promotion du basketball à Montréal. moi, j'ai été fasciné par l'engouement qui a été démontré là, pour les Raptors au printemps passé. Mm-hmm. Mais je me demande, hors de Montréal, est-ce qu'il y a un intérêt pour le basket?
Tu veux dire au Québec?
Oui.
Absolument.
Okay.
J'arrive d'un tournoi de basket à Québec ce week-end. Mon plus jeune joue pour son école. Donne un exemple. À son école, que je nommerai pas, là, c'est pas important, il y a 5 classes secondaires. Le 3 septembre, pour faire l'équipe secondaire, 85 enfants se sont pointés. Le plus d'enfants qu'il y avait eu dans les autres années, c'était 40. Raptors. Il y a des enfants qui sont
là. Il y a un effet Raptors.
Qui n'avaient jamais touché un ballon. Ouais. OK? À telle enseigne que l'école a fait 2 équipes. Une équipe de stars, l'équipe, les Rockets de Laval, dans laquelle est le mien. OK? Puis c'est super sharp, puis c'est comme ça que tu bâtis. Tu sais, une relève, puis un intérêt pour le basket.
Mais actuellement, là, en l'état actuel des choses, right. Bon, au printemps passé, là, les codes d'écoute étaient excellents parce que le parcours des Raptors en série de la NBA était fascinant. Là, on me dit que des fois, là, pour certains matchs, à RDS, on parle de codes d'écoute faméliques autour de 10 000. Ça dit quoi, ça, sur l'engouement réel?
J'ai aucun doute sur l'engouement pour le basket à Montréal. Le groupe avec lequel je suis, on a fait des études, on est très confiants. Et au-delà de ça, c'est pas juste. On a des investisseurs sérieux, des milliardaires qui sont autour de ça, qui, le moment venu, parce qu'il faut bien se comprendre, le projet, c'est d'amener une équipe de la NBA à Montréal, il faut d'abord convaincre la Ligue. Alors, la Ligue, elle n'a pas décidé d'élargir les cadres de ses opérations. Quand elle va le faire, c'est un sport qui est tellement populaire qu'il va y avoir 75 villes qui vont vouloir les deux ou les quatre
évidemment.
Nouvelles franchises. OK? Nous, on s'organise, Patrick, je ne vais pas t'interrompre, mais nous, on s'organise pour être prêts. Le jour où Adam Silver, le commissaire, va dire, OK, on élargit les cadres en 2024, moi, je vais avoir le cash, je vais avoir l'équipe, puis là, il faudrait faire une présentation au siège social de la NBA avec les autres villes qui vont être retenues sur une courte liste. Puis nous, on pense que Montréal a tout ce qu'il faut pour réussir.
OK. Dans le groupe d'investisseurs, c'est quoi la proportion de gens qui sont ici à Montréal, au Québec, et la proportion de gens qui sont hors du Québec?
On aurait pu avoir que du hors Québec. Stéphane Crétier,
de Garda,
très bien implanté, a dit qu'il mettrait au moins 200 millions US là-dedans. Alors pour moi, 200 millions sur un projet qui va peut-être coûter 2 milliards. 10%, c'est un homme respecté, connu. Le reste, là, pour moi, on a fait le tour un petit peu à Montréal, mais c'était pas important pour nous si on avait su que quelqu'un voulait mettre 2 milliards d'ici à Montréal, puis on va le mettre maintenant. Mais on n'a pas passé beaucoup de temps là-dessus. On a fait un tour de chapeau rapide, puis genre, préférait pas, il y avait le baseball, tu sais. Mais la beauté, c'est que le basket est tellement populaire à l'échelle planétaire que ça va paraître curieux ce que je vais dire. L'argent, c'est pas ça notre plus gros défi. Une fois qu'on aura l'argent, ça va être de convaincre la Ligue que Montréal ferait une excellente équipe.
On va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Ce serait très intéressant d'avoir une équipe
de
la NBA à Montréal.
Invité.
Merci, Michael Fortier. Merci. Homme de plusieurs... qui porte plusieurs chapeaux politiques. Business et aussi peut-être sportif. Merci beaucoup. Catherine Beauchamp, on va finir l'émission avec toi. On a un concours.
On a un concours. Donc, c'est notre concours Titanic. Titanesque aussi. Ben oui, on vous offre 2 billets pour Titanic Live en version ciné-concert le dimanche 9 février à 14h à la salle Wilfrid Pelletier. Et ça, c'est idéal parce que vous allez pouvoir aller voir le concert et vous allez pouvoir regarder les Oscars le soir même. Mais il y a 130 musiciens qui vont être sur scène. Il va y avoir les petits chanteurs du Mont-Royal. Et c'est la musique de James Horner qui est magnifique. Notre gagnant d'aujourd'hui, c'est Christine Harel de Charlemagne. Et vous pouvez aller vous inscrire au concours sur le 985fm.ca. Et avant qu'on se quitte, je voulais te dire aussi qu'il y avait un concert bénéfice qui était organisé pour l'Australie.
Oui.
Dans les invités, il va y avoir Adam Lambert et Queen qui sont en tournée, qui vont faire un arrêt en Australie. Ça va se dérouler à Sydney.
Queen, comme dans Queen,
qui continue à faire de la tournée, justement avec la voix d'Adam Lambert. Olivia Newton-John, qui vient du coin.
Bien sûr.
Ça va s'appeler Firefight Australia. Et il va y avoir un petit peu de... On l'entend, Adam Lambert.
Mon Dieu! Comme l'original.
Ben oui, c'est la voix avec Marc Martel, qui est québécois, qui ressemble le plus à celle de Freddie Mercury. Et il y aura un petit peu de Canada là-dedans parce que Katie Lang sera là et elle va chanter Alléluia de Leonard Cohen pendant ce concert.
Puis c'est pour
amasser
les
des
profits.
Fonds. Oui, exactement, amasser
pour
des fonds
pour les
pompiers, tout ça. Ouais.
Excellent, merci beaucoup, Catherine. On en parlait plutôt avec Michael Fortier. Il faudrait que le Parti conservateur ait une forme de de position environnementale. Et je pense que la question se pose aussi avec les conservateurs en Australie, qui sont en fait des libéraux là-bas. Merci beaucoup tout le monde. Merci Catherine d'avoir été là. Excellente émission. Je vous laisse avec Mario Langlois aux amateurs de sport. Merci d'avoir été là tout le monde. C'était Patrick Lagacé pour le Québec maintenant.